Bonjour à tous. Alors que les médias de l'audiovisuel public s'unissent pour lancer Culture Prime, un média 100% numérique pour rendre la culture accessible à tous, retour avec notre invité, le sociologue Olivier Donat, sur les nouvelles pratiques culturelles des Français et sur les difficultés à rendre réelle, concrète la démocratisation culturelle. Pourquoi la culture ne se partage pas? On en parle à partir de 12h55. Mais d'abord, de Black Micmac à Black Panther. Noir n'est pas son métier, mais une identité et une culture qu'il est fier de porter, incarné à travers les mots de Léopold Sédar Senghor, aujourd'hui dans Femmes Noires, capté à Avignon, diffusé sur France O. Acteur fétiche de Chéreau sur les planches et de Jim Jarmusch au cinéma, il poursuit sa carrière entre la France et Hollywood, où il apparaît dans le film phénomène de l'année Black Panther de Ryan Coogler. Isaac de Bankole est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La Grande Table, Olivia Jesbert.
Isaac de Bankole, bonjour.
Bonjour.
Présenté dans la cour d'honneur lors de la 71e édition du Festival d'Avignon l'an passé, Femme Noire, issue du recueil Chant d'ombre du Sénégalais Léopold Sédar Senghor, écrit un texte en pleine période coloniale. Vous lui avez donné corps dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Extrait.
Oui. Elle m'a baisé, Banak. Du baiser de sa bouche. Et ma mémoire en demeure odorante. De l'odeur fraîche du citron. Du mimosa indien. Bruiteur de senteurs en avril. C'était au temps du jardin de l'enfance, quand les puits étaient purs et si transparentes les eaux nimbées de rosée.
Ça a dû être un sacré frisson, Isaac de Bankole, d'entendre votre voix, celle d'Angélique Kidjo aussi, qu'on entend à l'instant, résonner dans la cour d'honneur du Palais des Papes.
C'est encore un frisson de réentendre ce petit extrait-là maintenant, parce que ça ramène à très 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 loin en arrière.
Ça vous ramène jusqu'où ?
Ça me ramène jusqu'en 87. Nous, on venait de finir Black Micmac, qui était sorti. Ça avait eu un succès phénoménal ici en Europe et aussi en Afrique francophone. Et il y avait un gardien de but marseillais à l'époque qui s'appelle Joseph-Antoine Bell, qui avait décidé pour une sorte d'africanisme, de mettre en visibilité les Noirs qui faisaient des choses ici en France à l'époque. Et il a décidé de faire les Senghor, c'est-à-dire d'offrir des awards, un peu comme ça, à des Africains qui dans différentes disciplines. Et moi, il y avait dans le cinéma, Manu Dibango dans la musique, Yannick Noah dans le sport, le tennis. Et on s'est retrouvés à La Ciotat pour cette première année des Senghor. Et figurez-vous que qui était là ? Sédar Senghor lui-même en personne. Il était dans la salle avec nous. Yannick Noah n'était pas là, mais il y avait Manu Dibango, il y avait Joseph-Antoine Bell. Et cette statuette qui représente trois femmes noires, avait été sculptée par César. César qui faisait les Césars. Et c'était vraiment très émouvant d'être assis à côté du président Senghor, du poète, du chantre de la négritude, d'être assis à côté de Manu. Et de retrouver Manu Dibango 30 ans après, à la cour d'honneur, avec Angélique, c'est... Enfin, il n'y a pas de mots.
Le saxophoniste camerounais Manu Dibango, la béninoise Angélique Kidjo, le congolais aussi, le guitariste Dominique James qui était là avec vous, et le jeune rappeur MHD. Vous étiez tous réunis sur cette scène de la cour d'honneur du Palais des Papes, sur une mise en scène de Frédéric Maragnani, pour cette pièce hommage à l'auteur des élégies majeures, recueil paru en 76. La pièce, le spectacle, la soirée a été captée par France Télévisions, Femme Noire, et elle sera diffusée le 3 décembre sur France O, la chaîne des Outre-mer. Isaac de Bankole, au-delà de la célébration de la femme africaine, au-delà de cette déclaration d'amour, qu'est-ce que vous entendez-vous dans ces mots à lui que vous portez sur scène? Il revendique cette culture noire.
Oui, dans ce, je dirais le terme négritude, c'est un terme non seulement que je trouve beau, mais que je revendique et que j'aimerais que mes enfants revendiquent, même si mes enfants sont métis, parce que au-delà de la couleur, justement, c'est la négritude, c'est pas simplement le fait d'être noir, mais c'est le fait aussi de d'être ancré dans son âme et être fier de ce que l'on est. Et c'est ça surtout que je retiendrai de Senghor, que sa collaboration aussi avec Césaire, avec tous ces grands penseurs qui ont fait que la culture noire, la culture africaine et au-delà la culture noire ne sera jamais expropriée du continent.
Vous avez, vous qui évoquez vos enfants, vous avez cherché à donner à ces textes un nouveau souffle pour que ces mots de Senghor puissent aussi résonner encore aujourd'hui auprès de la nouvelle génération.
Oui, oui. D'ailleurs, je vais vous dire, quand Angélique est venue me voir pour me dire, Isaac, oui, il y a les gens d'Avignon qui m'ont approché pour cet hommage à la femme noire et ils m'ont demandé de choisir quelqu'un, un acteur, pour faire lire des textes, des poèmes de Senghor. La seule personne que je voyais, c'était toi. Et j'ai dit, oui, mais Angélique, je veux bien lire les poèmes de Senghor, mais je ne veux pas lire des poèmes avec le livre sous les yeux. Donc, il faut que je m'approprie les mots. Le metteur en scène, tous étaient... Non, on a eu des exemples à la cour d'honneur où les gens ont mis le livre, ils ont lu. J'ai dit, non, ça ne m'intéresse pas de faire ça. J'ai envie de l'embrasser, ces mots de Senghor. C'est peut-être pas mes mots à moi, mais à travers moi, ils auront une résonance différente. Et oui, c'est ce que j'ai fait. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire à la cour d'honneur.
De les apprendre par cœur pour que ça vienne du...
Oui, de les apprendre par cœur, ouais. Que ça vienne du fond, des tripes, et ouais. Les réingurgiter comme ça, fait qu'il y a d'autres émotions qui passeront.
Alors, Femme noire, ça c'est un des poèmes les plus célèbres de Senghor, écrit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On le disait, un hommage, une célébration de la femme africaine. Je vous propose une lecture à deux voix, avec lui, avec Léopold Sédar Senghor. Il commence et vous prendrez la suite.
Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton nom. La douceur de tes mains bande mes yeux. Et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre terre promise du haut d'un haut col calciné. Et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l'éclair d'un aigle.
Femme nue, femme obscure, fruit mûr à la chair ferme, sombres extases du vin noir, bouche qui fait lyrique ma bouche, savane aux horizons purs, savane qui frémit aux caresses ferventes du vent d'est, tam-tam sculpté, tam-tam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur, ta voix grave de contralto est le chant spirituel de l'aimer. Femme nue, femme obscure, huile que ne ride nul souffle, huile calme au flanc de l'athlète, au flanc des princes du Mali, gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau, délice des jeux de l'esprit, les reflets de l'or rouge sur ta peau qui se moire, à l'ombre de la chevelure s'éclaire mon angoisse au soleil prochain de tes yeux.
Femme nue, femme noire, je chante ta beauté qui passe forme que je fixe dans l'éternel, avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie.
Alors c'est étonnant, Isaac de Boncollet, parce que vous récitez ce poème presque comme une prière, les mains jointes.
Oui, c'est drôle parce que là maintenant me vient à l'esprit non seulement c'est de la poésie, mais ça me rappelle aussi les chants spirituels des gospels, les chants soufis de l'islam. Je veux dire, quand on récite le Coran, quand on l'appelle du muezzin, si on n'a pas une très très belle voix qui est vraiment comme un chant, ça n'appelle pas les gens à la prière. C'est vrai, c'est un recueillement. C'est un recueillement au-delà de la poésie et c'est ce que je ressens, quoi.
Et d'ailleurs, cette pièce, Isaac de Boncollet, montre d'abord l'attachement de cet homme, le premier président du Sénégal, pour la langue. Hein. C'est un verbe très lyrique, très articulé, très rond, qu'il prononce aussi à travers ce poème. Hein.
Ouais, je veux dire, les grands écrivains, que ce soit par la poésie, c'est vrai que ça me rappelle aussi, quelque part, le cheminement qui, moi, m'a amené quelques années à rencontrer un auteur français qui s'appelle Bernard-Marie Coltès, qu'une langue, non seulement qui vous touche au fond du cœur, mais aussi qui est réelle, qui vous raconte les choses de la vie courante, de tous les jours, les gens qu'on côtoie, que ce soit les gens simples du 18e ou les gens simples du quartier... au Mali ou au Sénégal.
Coltès, vous l'avez rencontré en même temps que Chéreau, alors que le metteur en scène cherchait un acteur pour Key West en 86. Vous les retrouverez tous les deux l'année d'après pour Dans la solitude des champs de coton, puis Le retour au désert. Aujourd'hui, vous portez haut les mots de Senghor, mais il y a quelques années, vous avez raconté que ce sont ceux de Coltès qui coulaient dans vos veines.
Hein. Ah oui. Ma rencontre avec Bernard, que je considère comme un frère, d'ailleurs, je vais vous faire une confidence, c'est que moi, à l'époque, j'avais un compte à la Banque de la Cité, 3 avenue Matillon, qui était tenu par Colette Gervais et Daniel Guéguin, et j'avais un coffre à cette banque, dans cette banque, et j'avais pas d'argent, j'avais pas de bijoux, mais la seule chose que j'avais dans ce coffre, c'était le manuscrit de Roberto Zucco que Bernard m'avait donné. Et où il m'avait dit « J'aimerais que tu sois le garant de ma mémoire. » Mais ma rencontre avec Bernard... on venait de finir le tournage de Black Micmac entre décembre 85 et janvier 86. Et on avait la fête de fin de tournage au Mikado dans une boîte dans le 18e. Et par exemple, jeudi, on avait la fête de fin de film... Et le lundi, je reçois un coup de fil chez moi, rue Bafroy, à l'époque. Oui, c'est qui êtes-vous, Patrice Chéreau. Je dis, mais attendez, Patrice Chéreau, moi j'étais tout tremblant. Comment est-ce que vous avez fait pour avoir mon numéro au téléphone? Il me dit, mais attendez, il y a 3 ans, vous m'aviez envoyé un dossier à Nanterre. Je dis, bon, mais oui, mais me dites pas que vous avez ressorti le dossier 3 ans après, parce qu'en général, c'est des choses qu'on met à la poubelle. Il me dit, non, mais maintenant j'ai besoin d'un acteur pour une pièce que je suis en train de monter, Key West. J'ai besoin d'un acteur noir, donc j'ai ressorti le dossier. Est-ce que vous pouvez venir à Nanterre pour une audition samedi prochain et tout? Je dis, bien sûr, je viendrai. Et le jeudi, je vais à la fête de fin de tournage de Black Micmac au Mikado, dans le 18e. Et dans la soirée, on était en train de danser le saba, le djembé, le machin et tout. J'ai un copain qui me dit, Simon Djami, qui est écrivain, qui est aujourd'hui curateur. Il me dit, viens, je te présente un ami. Et qui je vois? Il me présente Bernard-Marie Coltès. Je dis, attends, non, je rêve. Vous êtes Bernard-Marie Coltès. Il y a 3 jours, il y a un réalisateur, un metteur en scène qui m'a appelé, qui m'a dit, il prépare une pièce, une de vos pièces. Il me dit, oui, je suis Bernard-Marie Coltès. Et j'ai dit, oui, Chéreau. Il me dit, quand est-ce que c'est votre audition? Je dis, samedi. Il me dit, ben, je viendrai samedi au café à Nanterre et après votre audition, on prendra un café. Et depuis ce samedi, Bernard et moi, on ne s'est plus quittés. Tous les jours, on se voyait jusqu'au jour de sa mort.
Mais alors, de Coltès à Senghor, est-ce que vous diriez que vous aviez un sang métissé qui coule dans vos veines?
Ah oui, non, moi, c'est... Je veux dire, quand je lis un texte ou quand je lis un scénario, je ne vois pas la couleur. Je vois des personnages sans couleur d'abord, sans couleur. Et c'est grâce à ces deux auteurs fabuleux que sont Senghor et Bernard-Marie Coltès.
C'est une question qui se pose aujourd'hui en plein débat sur l'appropriation culturelle, le spectacle, celui qui porte les mots de Senghor, femme noire. Est-ce qu'il ne pouvait être joué, chanté, mis en musique, selon vous, que par des acteurs ou des chanteurs noirs? Est-ce qu'il faut avoir connu cette douleur en héritage pour la porter sur scène ou à l'écran, pour vous, Isaac de Bankole?
Non, je ne crois pas. Enfin, je pense que... l'émotion, les douleurs, les souffrances se rejoignent. On peut être né en Afrique et ne pas connaître du tout de douleur. Moi, j'ai des copains qui sont nés à Abidjan, mais ils savent pas ce que c'est d'aller à Yopougon ou d'aller à Trècheville, de voir les gens qui peuvent pas manger. Ou... Non, c'est ça, la souffrance. On peut être au fin fond de la favela au Brésil et connaître autant de souffrance que quelqu'un qui est né à Bamako. Donc non, je pense qu'elle est humaine. C'est d'abord la ressemblance, c'est d'abord trouver ce qui nous lie, ce qui nous joint.
Parce que c'est la question qui avait été posée, qui l'a été encore récemment, avec la pièce Kanata du Canadien Robert Lepage, qui a été annulée sous la pression des minorités autochtones canadiennes, qui va finalement se jouer en France chez Ariane Mnouchkine, dans le cadre du festival d'automne, sur cette douleur, celle qui a été portée, vécue, et qui peut aujourd'hui la faire résonner. Dans Femmes Noires, Ce spectacle qu'on pourra donc voir sur France O le 3 décembre puisqu'il a été capté, c'est un spectacle musical et c'est aussi un spectacle symbole qui répond à une logique de réappropriation des imaginaires contre la colonisation.
Oui, mais laissez-moi ajouter quelque chose. C'est vrai que si on demande à un blanc d'interpréter un personnage noir et si c'est pour se parer le visage,
se grimer,
ça n'a pas de sens. Je veux dire, c'est un contre-emploi, c'est une singerie, c'est quelque chose qui ne doit pas se faire. Mais s'il peut interpréter un personnage noir sans se changer le visage, et moi, en tant que spectateur noir, le regarder et oublier qu'il a la peau blanche, oui, je suis partant pour ça.
Et je vous pose cette question sur la musique, parce qu'elle est aussi très présente, elle charrie des imaginaires dans ce spectacle. La romancière Zadie Smith, la romancière britannique, nous racontait autour de son roman Swing Time, à partir des claquettes, elle nous disait qu'en dehors des disputes entre idéologues dont on n'a que faire, les artistes comprennent très bien cette pollinisation croisée, ces rencontres, ces influences, et que personne n'utilise ce terme d'appropriation culturelle.
Oui, c'est, je veux dire, vous voyez dans la musique, si on prend la naissance du blues ou la naissance du jazz, sans l'apport de l'Afrique ou sans l'apport de l'esclavage, parce que le jazz serait jamais né de sans la combinaison de ces deux ou sans le transfert des hommes et des femmes sur l'autre continent. Donc c'est vrai que la musique, c'est le fondement même, je veux dire, avant la parole, avant les mots.
Mais le jazz aujourd'hui, le rap, toutes ces musiques nées en Afrique, nées dans cette douleur-là, vous estimez qu'elles appartiennent à tout le monde? Tout le monde peut se les approprier?
Oui, parce que je veux dire que la souffrance, on l'exporte et qu'on la fasse ressentir ailleurs et qu'elle nous revienne sous une autre forme, en tout cas améliorée ou transformée. Je veux dire, ça fait partie du voyage des sons. Il faut que les sons voyagent. Les sons voyagent pas simplement par, je veux dire, l'acoustique, c'est les airs. Et comme on respire, c'est normal que ça soit rebalancé. Donc c'est bien que ça se transforme par l'extérieur et que ça nous revienne, et nous aussi on les retransformera. Et c'est comme ça que l'évolution se fait.
Le comédien Isaac de Boncollet est notre invité jusqu'à midi et demi.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
On a appris récemment la mort du père des super-héros Marvel, Stan Lee, un génie de la bande dessinée américaine. Là, c'est lui. Écoutez ce qu'il disait de son personnage de Black Panther.
Well, I like the Black Panther because, first of all, he's not the typical way you'd write about a black guy.
J'aime Black Panther car tout d'abord, on ne le dépeint pas comme on le fait habituellement avec les personnages d'origine africaine. Il a l'air d'un natif vivant dans la jungle, mais en fait, il est à la tête d'une nation dissimulée sous terre.
And they're all geniuses, scientific geniuses.
Ces habitants sont tous des génies scientifiques. Ce mec est un génie scientifique. Personne ne connaît vraiment l'histoire de Black Panther, et je ne vais pas vous la raconter. Il faut que vous alliez voir le film.
The Black Panther has protected the world for generations.
It is your time.
Step into the spotlight.
The world's gonna start over.
I'ma burn it all.
Step into the spotlight.
Step into the spotlight.
Is this your king?
This ends today.
Black Panther, le film blockbuster américain des studios Marvel, succès planétaire, 1,3 milliard de recettes mondiales, un film qui fait d'une pierre deux coups des super-héros pour l'Afrique et un imaginaire commun pour les Afro-Américains. Isaac de Boncollet, on a entendu récemment l'actrice Aïssa Maïga qui a co-dirigé un ouvrage qui s'appelle « Noir n'est pas mon métier », sorti au moment de Cannes cette année. Elle interrogeait dans ce livre des stéréotypes, l'invisibilité des acteurs noirs dans le cinéma français. On sent quand même que côté français, il y a une révolution qui reste à faire. Et néanmoins, est-ce qu'on peut dire que de Black Micmac de Thomas Gilou à Black Panther de Ryan Coogler, dans lequel vous jouez, vous, un chef de tribu de la rivière, est-ce qu'on peut quand même se dire que les évolutions des représentations du noir à l'écran ont évolué et que l'on cherche aussi aujourd'hui à toucher, à correspondre plus à la sensibilité du public ?
Oui. Il y a une évolution qui se fait aussi... De par la réalité. Je veux dire, les Américains, ils ont mis pas mal d'années avant de faire Black Panther. Il y a eu des héros, mais je pense que le truc fondamental, c'est d'avoir une figure, de pouvoir se reconnaître, de pouvoir, de voir qu'il peut avoir des héros noirs et ça peut être, ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher d'ailleurs. Mais c'est vrai que chaque, je dirais pas chaque culture, chaque minorité a besoin d'avoir un reflet de quelque chose, de se regarder dans le miroir et de se projeter. Mais si je me regarde dans le miroir et que je ne vois que du blanc, à la fin, je vais m'oublier. Donc, oui, Black Panther. Mais je pense que le problème fondamental, c'est pas que de faire des choses sur les couloirs, c'est de regarder le film, de regarder le scénario. Moi, quand j'ai eu le scénario de Black Panther, je dis, il faut que je parle à Ryan Coogler parce qu'il y a des choses dans le scénario dont j'aimerais discuter avec lui avant de passer au contrat, parce qu'il faut qu'on s'entende, il faut que les visions soient harmonieuses. Donc, on s'est parlé, on s'est écrit et on s'est mis d'accord sur certains dialogues et il y a eu des moutures nouvelles qui ont été postées en ligne et ces moutures-là reflétaient nos discussions. Donc si on propose, par exemple, moi maintenant je dis, vous avez un scénario et que le blanc, on lui dit pas, oui, Joseph il est blanc et que Amadou on met qu'il est noir, ça m'intéresse pas de lire un scénario où il y a que l'un qui est, dont on dit la couleur de la peau et l'autre on dit pas la couleur de la peau, ça, c'est pas juste. Donc c'est vrai que au-delà de la couleur, il faut regarder si le scénario, si les personnages sont cohérents, si ça intéresse, et ils peuvent être des personnages comiques. Et j'ai pas envie de faire que de la comédie et j'ai pas envie de faire que du dramatique. Donc c'est trouver une harmonie dans l'histoire, quelque chose qui tient la route.
Et en parallèle, il va y avoir le retour du mythique Shaft, film étendard de la Blaxploitation dans les années 70 avec Richard Roundtree, qui a été repris en 2000 avec Samuel Lee Jackson et qui revient encore à l'écran avec vous, alors pas en John Shaft Jr., ça ce sera Jesse Usher, vous serez Gordito, c'est ça?
Oui, Gordito, voilà. Gordito c'est le chef de la mafia new-yorkaise, East New York, et qui est un peu l'antagoniste de la famille Shaft, parce que c'est, bon il y a eu Shaft avec Richard Roundtree, Shaft avec Samuel Jackson, et là ils font les trois générations de Shaft, donc le père et le fils, qui est T. Asher, et un jeune comédien noir américain. Voilà, on a tourné à Atlanta, ça s'est très bien passé, c'est encore...
Ça arrive un an après le retour de Spike Lee avec Black Man's... Black Man's Man. Ouais. Qu'est-ce que ça nous dit de l'Amérique aujourd'hui, pour vous, Isaac de Boncollet?
Ça veut dire que les studios ou les grosses productions qui pendant des années se sont tues sur une partie de la communauté, et maintenant on trouve que peut-être cette communauté-là, non seulement a des choses à dire, mais cette communauté-là peut nous rapporter de l'argent. Parce que c'est ça aussi. Je veux dire, si vous faites un film... moi, après Black Micmac, on m'a proposé de faire Black Micmac 2 ou une série. Bon, les producteurs l'ont fait, mais moi, ça ne m'a pas intéressé parce que j'ai trouvé que ce n'était pas assez bien écrit. Donc, c'est vrai, demain, s'il y a Black Panther 2 qu'on me propose, ce n'est pas parce que Black Panther a un marché que je vais sauter dessus. Non, je vais lire le scénario. Et si ça tient la route, si ça ne tient pas la route, ils iront voir d'autres acteurs.
Merci beaucoup à vous, Isaac de Boncollet. Je rappelle donc que le 3 décembre, on pourra voir sur les écrans de France O, Femme Noire, inspirée et hommage à Léopold Sédar Senghor, avec vous et avec Angélique Kidjo et avec toute la bande que vous retrouvez
Manu
donc
Dibango,
des années
James
après.
Et MHD.
Merci beaucoup à vous.
Merci.